avec Benoît Marchal.
Bienvenue, bienvenue pour le 72e épisode Déclencheur.
La photo, comme vous ne l'avez jamais entendu.
Trois segments dans cet épisode. L'édito, qui va être consacré à une réflexion sur les limites et les compromis du matériel photo. Le segment principal qui va être consacré au HDR. Et le troisième segment avec vos commentaires et vos réactions. Notez dès à présent l'adresse du site www.déclencheur.com. C'est là que vous pourrez retrouver tous les épisodes, y compris les épisodes vidéo. C'est là également que vous pourrez retrouver tous les liens présentés dans cet épisode. Et enfin, c'est là que vous pourrez vous abonner. Et on supporte de nombreuses méthodes d'abonnement, l'email, iTunes et tous les agrégateurs RSS. Premier segment, l'édito. Et cet édito est inspiré d'un morceau que j'ai supprimé dans l'épisode sur choisir les vidéos. En effet, quand je prépare mes épisodes, j'écris un petit texte, je l'enregistre, et puis après je fais un montage, c'est-à-dire que j'élimine les bafouillements, etc. Et puis, très souvent, je dois réduire l'épisode parce que j'ai enregistré un petit peu trop, j'étais un peu trop bavard. Et j'avais une petite réflexion que je trouvais tout à fait intéressante, mais qui n'était pas indispensable à la compréhension et qui rendait l'épisode un petit peu long. Donc je l'ai enlevée et je vous la livre maintenant. À un moment dans l'épisode, je vous explique qu'un objectif est systématiquement un compromis. Et donc, quand j'étais en train de réfléchir à tous ces éléments de compromis, j'ai brusquement réalisé que même quand vous prenez les technologies les plus sophistiquées qu'on puisse imaginer, et là je crois qu'on les trouve dans la science-fiction, j'aime bien différents auteurs de science-fiction, genre Asimov, Neil Stephenson, en film, Lucas évidemment, et quand on prend les technologies les plus sophistiquées que ces auteurs ou ces scénaristes inventent, eh bien on trouve encore des compromis exactement comme dans les appareils, les matériels que nous on achète au quotidien. Très souvent, d'ailleurs, l'intrigue est partiellement construite sur ses limites et sur ses compromis. Ça veut dire qu'on peut projeter notre esprit aussi loin qu'on veut, on aura de toute façon des compromis. Et donc ça me conforte dans cette idée qu'il est temps de cesser la quête de l'appareil absolu. Je parle très certainement pour moi, mais je crois que je parle pour beaucoup d'amateurs photo, en disant qu'il y a un vrai plaisir à déballer du nouveau matériel, à apprendre à l'utiliser. C'est très très gai. Mais je crois aussi que souvent on s'imagine qu'on va pouvoir faire des choses tellement plus extraordinaires. Or, c'est pas en final le matériel qui fait la photo, c'est quand même l'œil du photographe, sa démarche et sa réaction. Donc loin de moi de dire dans cet édito, je serai le premier à en souffrir, ce qu'il faut arrêter de rêver à du nouveau matériel, mais je crois qu'on doit aussi accepter que le matériel a ses limites, et comme les auteurs de science-fiction construisent leur intrigue sur ses limites, eh bien on devrait plus souvent peut-être construire nos photos sur les limites, qui peuvent être exploitées de façon créative, on peut les vivre comme une frustration, ou on peut les exploiter de façon créative, et on n'a peut-être pas toujours assez la démarche de les exploiter, en tout cas je sais que c'est mon cas, de les exploiter de manière créative. Et c'est pour ça que je suis toujours émerveillé par des démarches comme par exemple celle d'Éric Tonin qu'on avait rencontré à l'occasion du Festival de Roman et qui avec un simple compact a construit une démarche photographique tout à fait cohérente. N'hésitez pas à réagir, n'hésitez pas à commenter. Si vous avez transcendé certaines limites de votre matériel, partagez votre expérience. Deuxième segment, on va parler du HDR. Ce sont ces images avec une très grande dynamique. J'ai eu beaucoup de plaisir à vous présenter ce segment. Il est enregistré avec Jean-Michel Sanglera qui est un auditeur qui a une démarche tout à fait intéressante. Il m'a à un moment envoyé un email en disant « Tiens, le HDR, tu devrais en parler ». Je lui ai répondu « Écoute, moi j'ai essayé, j'ai pas tout à fait compris ». Mais qu'une fois qu'il aurait compris, qu'il revienne et qu'il nous explique ce qui se passe. Et c'est ce qu'il a fait. Pour moi, cet enregistrement a vraiment été une révélation. Je crois que ça s'entend d'ailleurs dans la discussion. Quand le HDR est apparu dans Photoshop CS, je n'ai jamais eu un résultat satisfaisant. Et puis avec des mots très très simples, Jean-Michel explique pourquoi et explique la démarche. Et vous allez voir, si on s'y prend de façon organisée et qu'on comprend en deux ou trois petits trucs, c'est en final très très simple. Alors, je suis avec Jean-Michel Sanglera. Bonjour Jean-Michel.
Bonjour Benoît.
Tu as une démarche assez intéressante parce que tu m'as contacté en me disant « Tiens, ce serait intéressant de faire un épisode sur le HDR ».
Tout à fait. Et puis tu m'as renvoyé dans les 22 mètres en me disant « Bah, fais-le
!» Et on est en train de l'enregistrer.
On est en train de l'enregistrer. Donc j'ai pioché un petit peu. Je ne suis pas un spécialiste, mais bon, j'ai essayé de chercher ce que je pouvais sur le sujet.
Super. Je crois que le HDR, c'est un sujet qui n'est pas très connu, pas très compris. Moi, je me souviens, je crois que c'est apparu dans Photoshop CS. J'ai essayé à ce moment-là, moi, de bidouiller un peu, voir comment ça marchait. J'ai mis deux, trois photos dedans. J'ai eu que des messages d'erreur. Je me suis dit, la prise de tête fera du temps pour rentrer dedans. J'ai laissé tomber. Donc, explique-nous d'abord, qu'est-ce que c'est au juste le HDR?
Si tu veux, moi, j'ai eu une démarche légèrement différente. Moi, j'ai commencé à voir certaines photos qui me paraissaient bizarres, qui avaient une tonalité que j'arrivais pas à obtenir. Je me suis dit, comment ils ont fait? Donc j'ai appris que c'était du HDR et après je me suis dit comment on peut faire du HDR. Alors le HDR ça veut dire High Dynamic Range, ça veut dire une grande étendue dynamique de lumière. Concrètement, quand on fait une photo, quand on voit une image sur le net, elle est codée en 8 bits par pixel. Mm-hmm. Ça veut dire que chaque couleur est, ou chaque pixel, chaque point est déterminé entre 0 et 255 en termes de valeur. Un capteur d'appareil photo numérique capture l'information sur 12 bits. Mm-hmm. Nous, quand on l'affiche sur le net, on l'affiche en JPEG en 8 bits. Donc il y a une perte d'information. Cette perte d'information, elle n'est pas de 12 à 8, mais elle est de 50% de l'information. Or, cette information, il y a des cas où on aurait aimé en garder une partie. Un exemple simple, je vais faire une photo d'architecture, je suis dans une église, l'intérieur est très sombre, je veux avoir une bonne exposition de mon intérieur, et il y a des magnifiques vitraux. Comment je peux faire pour à la fois avoir un intérieur d'église correctement exposé et des vitraux qui ne soient pas complètement, entre guillemets, cramés?
Oui, c'est vrai que souvent, tu as effectivement soit l'intérieur noir, les vitraux sont beaux, soit l'intérieur bien exposé et les vitraux, c'est des trous.
Exactement. Donc là, il faut avoir recours à une technique spécifique. Et cette technique spécifique, c'est le HDR, le High Dynamic Range.
Et alors, par rapport aux 8 bits, 12 bits dont on parlait tout à l'heure, l'idée du HDR, c'est de conserver les 12 bits ou c'est d'aller au-delà?
C'est d'aller bien au-delà. C'est-à-dire que on peut combiner plusieurs images, c'est-à-dire combiner plusieurs images, au départ, plusieurs images de 12 bits. En général, c'est souvent 3 images, mais on peut monter, dans des cas extrêmes, à 5, 6, 7 images qu'on va exposer différemment et qu'on va recombiner ensuite.
Donc, au lieu de perdre, en passant de 12 à 8, on va gagner, on va passer de 12 à 16, à 20, pour avoir encore plus de dynamique dans l'image.
On va passer de 12 à 32 bits. Et par contre, ce qu'il va se falloir faire à un moment donné, c'est revenir à 8 bits, puisqu'à la sortie, nos ordinateurs n'affichent que 8 bits. Donc, toute la technique du HDR consiste, grosso modo, à prendre énormément de plages dynamiques de lumière en compte, combiner 3 photos, 4 photos pour arriver à 32 bits, et ensuite extraire de ces 38 bits les 8 bits pertinents qui vont nous permettre de faire une bonne photo.
Ok, donc on comprend, mais ça a l'air très technique quand tu l'expliques comme ça. Pratiquement, comment est-ce qu'on procède? Alors,
pratiquement, comment on procède? On va procéder en plusieurs étapes. La première étape, c'est la prise de vue. Mm-hmm. Donc à la prise de vue, on va prendre plusieurs photos successives avec des expositions différentes. La meilleure méthode, bien sûr, c'est d'utiliser déjà à la base un trépied, parce que si on veut plusieurs photos, il faut qu'elles soient calées les unes aux autres. Ensuite, on va exposer différemment ces photos. Alors, pour avoir exposé ces photos de manière différente, il faut jouer surtout uniquement sur un facteur qui est la vitesse. Pourquoi ? Parce que si on modifie les ISO, si on modifie le diaphragme, on va avoir des photos qui ne vont pas être cohérentes entre elles. Soit on va avoir du bruit, soit on va générer des problèmes de profondeur de champ.
On pourrait avoir, en variant le diaphragme, la profondeur de champ, le sujet qui était net, voilà, qui se retrouve flou, ou des choses pareilles.
Exactement.
Donc ça veut dire concrètement, sur l'appareil photo, qu'on ne peut pas faire ça en mode automatique.
Donc la technique de base consiste à bien positionner son appareil photo, bien choisir son cadrage, le mettre sur le trépied, et ensuite de faire sa mesure de lumière, et en fonction de sa mesure de lumière, en mode manuel, faire plusieurs expositions. Mmh. Ce qu'il faut impérativement, c'est avoir des photos très différentes au niveau exposition. Il ne faut pas qu'elles soient trop proches. Donc il faut bien faire varier la vitesse de manière importante. Il faut par exemple, si vous avez 2 secondes d'exposition, faire au moins plus 6 d'un côté et au moins une demi-seconde de l'autre.
Ah oui, donc c'est carrément une photo correctement exposée, une vachement surexp, une vachement sous-exp.
Tout à fait, parce que la correction normale va correspondre à la moyenne. Or, on est dans un cas où les lumières sont extrêmes. Donc il faut pratiquement, à la limite, avoir une photo bien exposée pour les très hautes lumières, une photo bien exposée pour les très basses lumières, et puis une photo pour les tons moyens.
D'accord, donc pour reprendre l'image de ton église, il y en a une qui va être exposée pour le vitrail, une qui va être exposée pour la sacristie, et une qui va être exposée pour les gens, enfin pour l'ambiance.
Exactement. Okay.
Là, tu dis 3 photos, donc une correcte, une surexp, une sous-exp, mais on peut en faire plus, ou c'est minimum 3, ou c'est maximum 3?
Non, c'est, je dirais, minimum 3, pour avoir un résultat cohérent. Et on peut aller, il y en a certains, ils font des professionnels qui peuvent aller 7, 8 photos. Tout dépend aussi de l'écart de lumière que vous avez.
Et le principe, donc toujours bien caler l'appareil sur le trépied entre les expositions.
Il faut absolument que chaque photo, puisqu'elles vont être superposées les unes aux autres, il faut absolument qu'elles soient effectivement très bien calées. Il n'est pas question de faire une photo de ce type-là, HDR, à main levée.
D'accord. Et on travaille en JPEG ou on travaille en RAW?
Moi, je serais tenté de dire, on essaye de capturer le maximum de lumière. Si vous avez un appareil qui fait du RAW, ça serait quand même dommage de vouloir capturer plus de lumière avec, en travaillant en JPEG. Donc, il faut bien mieux travailler en RAW lorsqu'on le peut.
Ok, donc ça, c'est la prise de vue. Et puis, une fois qu'on a nos 3, nos 5 photos, on en fait quoi?
Ben, on rentre à la maison, on fait une sauvegarde. D'ailleurs, il y a un bel... Il y a un très, très bon épisode de Déclencheur sur le sujet. Ensuite, ce qu'il faut prendre un outil qui permette de faire l'assemblage. Alors, des outils sur l'assemblage, vous en trouverez sans doute sur le net. Moi, j'ai essentiellement travaillé avec Photoshop d'un côté et Photomatix de l'autre. Photomatix, c'est un outil qui est dédié à cet usage. Alors, si vous voulez faire des essais, Photomatix, c'est extrêmement intéressant parce que vous pouvez le télécharger en version d'évaluation. Tout est possible. La seule limite, c'est qu'à la sortie, vous aurez un gros logo sur vos images. Mais ça vous permet de faire des tests. Et puis, si ça vous plaît, ensuite, de passer le pas.
D'accord. Et quand on parle de Photoshop, c'est bien de la version CS dont on parle, pas de la version Elements.
C'est bien de la version CS. Les différents outils qui existent, il y a notamment donc Photomatix dont j'ai parlé. Il y a Photoshop CS2. Il y a aussi HDR Soft, Easy HDR, Photogenic HDR, des outils que vous pouvez trouver des éléments sur le net. Et je crois aussi que Photo Impact a une fonction HDR.
Et alors, ce logiciel, donc, on fait quoi avec?
On assemble les photos. Ça, c'est extrêmement simple. Chaque outil a ses menus. Donc, on choisit assembler les photos. Il met les 3 photos, les 4 photos, les 5 photos qu'on a fait ensemble. Et il en fait une image HDR en 32 bits. Là, en général, c'est extrêmement simple. Il n'y a qu'à choisir les photos, puis tout se fait quasiment automatiquement.
Si on a travaillé en RAW, il faut développer le RAW d'abord ou on peut directement donner les RAW à l'outil HDR?
Je pense que le plus simple, c'est de les développer soi-même les sauvegardant, bien sûr, au format TIFF 16 bits. Ça permet de jouer éventuellement sur la balance des blancs. Mais par contre, il faut faire extrêmement attention à ce que ce développement soit uniforme, qu'il soit vraiment développé tous de la même façon. Parce que si on commence à remonter les basses lumières dans l'un, à descendre les basses de lumière dans l'autre RAW, on met tout en l'air.
Ah oui, d'accord. Donc en fait, la photo sous exp, il faut qu'elle reste sous exp.
Elle doit rester sous exp si on la développe en RAW. Elle doit rester telle qu'elle. Bien mettre tous les paramètres qui concernent l'exposition, le contraste, la lumière à zéro.
D'accord.
Ça, pour c'est nous... indispensable pour ne pas impacter le contenu de la photo.
D'accord, pour bien conserver tous les 12 bits d'information dont on parlait tout à l'heure.
Là, par contre, on peut jouer, c'est sur des points communs comme la balance des blancs ou des choses comme ça.
D'accord. Et même principe, la même balance des blancs pour les 3 photos.
Bien sûr.
Et donc, une fois que tu as fait ton assemblage, tu as ton image 32 bits, c'est là où c'est particulièrement décevant. Elle n'est pas spécialement jolie, cette image.
Oui, parce que on ne peut pas afficher 32 bits. Donc, l'ordinateur t'affiche des valeurs moyennes et il va falloir aller piocher dans ces valeurs pour sortir l'image qu'on veut.
D'accord.
Et toute la difficulté de l'exercice, il est là. Parce qu'aujourd'hui, dans tous les outils que j'ai trouvés, pour voir le rendu à l'avance de ce qu'on va obtenir, c'est très difficile d'avoir quelque chose de satisfaisant. Donc il faut y aller avec beaucoup d'essais, souvent jugés, et à force de pratique, trouver les réglages qui vont convenir.
D'accord. Et donc cette image un peu moyenne comme ça, un peu fade, et on se dit zut, j'ai fait tout ça pour ça, on peut quand même en faire quelque chose de sympathique.
Tout à fait. Il faut rentrer dans les options de l'outil qui permettent de la convertir en 8 bits. Donc dans Photoshop, on met simplement « Convertir en 8 bits ». Et là, il va y avoir des menus, des outils qui nous sont donnés pour jouer sur les différents paramètres.
D'accord, c'est ça l'astuce. Donc l'image est moyenne, et alors on va dans le menu, en Photoshop, ça va être le menu « Image ».
Voilà.
Et on va passer sur « Convertir en 8 bits », comme si on avait une photo 16 bits en RAW qu'on a développée en 16 bits et qu'on veut publier en JPEG sur Internet.
Voilà. Quand on est de 16 bits en 8 bits dans Photoshop, il le fait automatiquement, il ne nous demande rien. Là, par contre, il va nous demander d'agir et de faire des choix.
D'accord. Et alors, la boîte de dialogue qui apparaît là va permettre de faire ces images un peu psychédéliques qu'on voit parfois les images HDR.
Et psychédéliques si on pousse les paramètres un peu loin. Dans l'idée de faire une photo classique avec une grande étendue de luminosité, il faut mieux essayer d'être sobre dans ses effets.
D'accord. On peut reprendre une fois la manip complète. Donc si j'ai bien compris, le conseil que tu donnes, l'outil le plus simple pour mettre ça en œuvre, en fait, qui est apparemment le plus simple pour démarrer, c'est Photomatix.
Enfin, parmi ceux que j'ai essayé, oui, Photomatix, c'est très simple. Donc lui, il va nous ouvrir une image, il va nous demander de faire l'assemblage. Une fois l'assemblage fait, on va choisir l'option qui permet de faire le passage en 8 bits.
Donc là aussi, c'est comme dans Photoshop, le résultat est un peu moyen et il faut explicitement lui dire de passer en 8 bits.
Il faut lui explicitement lui dire de passer en 8 bits. Et là, il va nous ouvrir des fenêtres dans lesquelles on va pouvoir agir sur certains curseurs. Mmh. Moi, ce que je conseille, c'est toujours essayer de trouver, quand vous avez des outils qui le permettent, de faire un micro-contraste relativement fort, un contraste local relativement fort, et puis ensuite de jouer sur les différents paramètres et de voir ce que ça donne, et puis de faire des essais. Il ne faut toujours, je dirais au départ, faire des réglages relativement soft, sous peine d'obtenir des effets vraiment dramatiques.
Et alors, si on prend l'autre outil, qui est peut-être un petit peu moins pratique, mais qui est aussi celui que beaucoup de photographes ont déjà et connaissent déjà, Photoshop CS. Mmh. Donc là, la démarche pour constituer le HDR, si on ouvre d'abord ces photos RAW avec caméra RAW.
Par exemple.
Et puis?
Et puis, donc dans Photoshop CS2, on va dans le menu fichier. Dans le menu automatisation, là, on a fusion HDR. Ça nous permet de sélectionner les photos que l'on souhaite fusionner. Faire l'opération. Ensuite, on obtient la fameuse image 32 bits. Et une fois qu'on a cette image-là, eh ben, il faut aller dans le menu image, convertir en 16 ou en 8 bits. Et là, Photoshop va ouvrir une fenêtre dans laquelle il va proposer différentes options de transfert.
C'est bien, en fait, les menus classiques de Photoshop. Il n'y a pas un menu spécial pour obtenir cette transformation.
Cette transformation-là, de 32 bits en 8 bits, c'est un menu tout à fait classique.
D'accord.
Donc là, parmi les options qui sont proposées par Photoshop, moi je vous conseille la dernière, qui est la plus puissante. Les autres, c'est des options par défaut, qui donnent des résultats souvent très décevants. La dernière est un petit peu plus compliquée, mais on peut jouer sur une courbe, et ceux qui ont l'habitude de travailler avec les courbes arriveront à en tirer quelque chose d'intéressant.
Oui, on regardait tout à l'heure, tu me montrais un petit peu la manip, effectivement, il y a dans la boîte de dialogue une petite option qui permet d'ouvrir des options supplémentaires, et là on retrouve la courbe qui est quasiment la courbe classique de Photoshop, comme on a le calque de courbe, mais intégrée dans la conversion 32 en 16 bits.
Exactement.
Et donc, quand on dit, parce qu'on le lit effectivement sur Internet, qu'il faut passer par une courbe, etc., pour passer du 32 en 16 bits, c'est bien pas utiliser l'outil courbe traditionnel de Photoshop, parce que c'est ça qu'on cherche, en fait. On lit ces explications, on cherche l'outil traditionnel courbe, on le trouve pas. C'est bien passer de 32 en 16 bits via le menu image.
C'est exactement ça. D'ailleurs, quand on travaille sur une image 32 bits, on s'aperçoit que la plupart des options de Photoshop ne sont pas effectives. Pas moyen de faire un filtre, pas moyen de faire des choses comme ça. Ben, ce fameux passage de 32 bits en 8 bits, c'est souvent ce qu'on trouve sur Internet avec le nom de tone mapping, c'est-à-dire mapper les tons qu'on va vouloir refaire ressortir.
Donc ça veut dire qu'on va enregistrer le fichier 32 bits, on va se le garder bien au chaud pour si on veut avoir d'autres rendus plus tard. On va le convertir en 16 ou en 8 bits pour donner alors le rendu que l'on souhaite obtenir. Et puis, c'est sur ces fichiers-là qu'on va travailler, qu'on va imprimer, qu'on va manipuler, qu'on va mettre sur Internet, etc. C'est pas le fichier 32 bits.
Non, le fichier 32 bits, on pourra jamais le visualiser sur Internet, pour l'instant.
Alors maintenant qu'on a bien compris ce que c'était que le HDR, qu'on a bien vu la démarche, et je dois dire que pour moi, en tout cas, ce que tu viens de m'expliquer, les petites manips, ça éclaire beaucoup, parce qu'on fait des essais en aveugle, et puis on comprend pas ce qui se passe, on arrive à des images molles, on comprend pas pourquoi, et là tu viens nous donner la méthodologie. C'est quand même assez contraignant, on va pas faire les photos d'anniversaire avec ça quand même.
Non, c'est très contraignant, mais ça répond à des besoins très spécifiques. Je pense que dans l'utilisation quotidienne, on doit essayer au maximum d'utiliser ce qui est déjà à notre disposition, notamment le JPEG et le RAW. Et lorsqu'on est confronté avec le RAW à certaines limites, à ce moment-là seulement passer au HDR. Donc, quels sont les cas? Tout à l'heure, on citait l'architecture d'intérieur, où effectivement, il peut y avoir des lumières extérieures. En photo de paysage aussi, ça peut être, dans certains cas, lorsqu'on a des problèmes de luminosité avec de la neige, avec des forts contrastes, ça peut être extrêmement intéressant. Ça peut être aussi, et c'est extrêmement utilisé aussi, pour donner des rendus un peu dramatiques. Lorsqu'il fait un ciel gris, c'est pas toujours facile de faire une belle photo. Mais lorsqu'on utilise le HDR, en poussant un peu certains paramètres, on peut obtenir des ciels qui ont une connotation un peu comme le film à la Vidocq. On rentre là plus dans l'aspect créatif du HDR que dans l'utilisation classique.
En final, quand j'entends les explications, ça me rappelle un petit peu l'ancienne méthode pour justement faire la photo de l'église. C'est-à-dire on faisait deux photos au trépied, une exposée pour l'église, une exposée pour les vitraux. Et puis on détourait et avec beaucoup, beaucoup de difficultés parfois, on essayait de faire en sorte que les vitraux s'intègrent dans l'image sans être exagérés. Le HDR, c'est une version un peu automatisée de cette démarche.
C'est une version tout à fait automatisée qui permet une transition un peu plus souple entre les différentes couches de lumière.
Ce qui est effectivement le gros problème quand on fait une fusion à la main.
Voilà.
Tu avais dit à un moment, c'était assez intéressant, donc on privilégie le RAW, mais si on n'a que du JPEG, le HDR trouve toute son importance.
Oui, moi ce qui est intéressant aussi, c'est que tout le monde n'a pas un appareil photo qui fait du RAW, et que dans ces cas-là, il est tout à fait possible de faire du HDR avec du JPEG, ça permet de compenser la faiblesse de son appareil.
Si on a des sujets mobiles, comme on est en train de faire une photo avec un trépied, etc., de nouveau, là, ce n'est pas le HDR qui est la formule.
Ce n'est pas le HDR, sauf à faire vraiment quelque chose de très spécifique et de très spécial. Je dirais que, pour moi, les règles de base du HDR, c'est choisir un sujet statique, utiliser un trépied, et ne pas hésiter à prendre autant de photos que nécessaire pour couvrir toute la palette de luminosité.
Oui, même les images qui sont en fait extrêmement sombres et où on se dit elle est complètement sous-exp, elle est bonne achetée, le HDR va en tirer quelque chose.
Va en tirer quelque chose, et ce qui va être très intéressant, c'est qu'on va en tirer quelque chose avec un minimum de bruit.
Oui, tout à fait.
Parce qu'un des problèmes parfois qu'on peut avoir en RAW, lorsqu'on travaille sur du RAW et qu'on récupère des parties sombres en RAW, si on pousse trop loin la manip, on génère beaucoup de bruit. Alors qu'en HDR, on va pouvoir récupérer cette partie-là avec un minimum de bruit.
D'accord. Donc on voit que c'est une technique spécialisée qui a son intérêt pour les cas qu'on vient de prendre avant, mais en final, quand on regarde les photos sur Internet, c'est plutôt pour le côté créatif.
Il y en a beaucoup qui disent ça pour le côté créatif, et l'avantage du côté créatif, c'est qu'on est de pousser les curseurs un peu loin, et puis si on se trompe un peu, l'effet créatif est d'autant, est d'autant meilleur. Mais si on veut rester dans la partie vraiment d'une photo traditionnelle, classique, avec des bons paramètres, c'est quand même assez pointu. C'est pointu, puis comme dans toute la démarche qu'on a quand on fait de la photo, il y a des règles. Il faut savoir les dépasser, bien sûr, tu l'as souvent montré, mais il faut toujours au départ, pour pouvoir les dépasser correctement, les maîtriser, les respecter au démarrage. Donc je pense qu'il faut être très strict au départ pour avoir des résultats qui vont vous donner satisfaction, et une fois qu'on a ces résultats-là, passer un deuxième temps où là, on pourrait être créatif.
Eh bien, je dois dire que ça a vraiment été une découverte parce que le HDR, c'est quelque chose qui m'a vraiment frustré dans le sens où on lit ses explications sur Internet, on veut aller un peu vite, on comprend pas bien. Et là, tu viens vraiment de nous remettre l'étape par étape. C'est en final, si je comprends bien, à condition de travailler avec un trépied, d'être un peu soigneux, pas très compliqué. Le piège, c'est vraiment ce passage... L'image 32 n'est pas belle, il faut la ramener en 16 ou en 8, et c'est là qu'on va jouer sur le passage.
C'est exactement ça.
Merci beaucoup.
Bah, merci.
Et ce que j'apprécie particulièrement dans ta démarche, c'est qu'effectivement, tu es venu avec une question, et puis tu l'as recherchée, et puis tu viens nous présenter les résultats de ta recherche, et c'est vraiment enrichissant.
Bah, ce que j'espère surtout, c'est qu'il y aura d'autres personnes qui pourront intervenir et qui pourront compléter ce sujet-là.
Oh, je crois que le HDR, ça plaît. On fera peut-être d'autres épisodes sur le sujet, peut-être pour aborder justement, maintenant qu'on a vu les bases, les éléments plus créatifs. Merci.
Au revoir.
Troisième segment, vos commentaires et vos réactions. D'abord, un petit peu d'agenda et de nouvelles. Dans la boutique déclencheur pour les cibles neutres, vous ne trouverez plus que des digigrés. Pour une raison très simple, c'est beaucoup plus facile et agréable de travailler avec Jean-Luc Ernst qu'avec Michael Tapes. Je ne distribue plus que le digigré, qui à l'usage, on l'a vu, est aussi efficace que le Wyman en final. Deuxième nouvelle, vous savez que depuis plus d'un an maintenant, je vous invite à distribuer des cartes promo pour faire connaître Déclencheur autour de vous. Eh bien, on a ajouté un deuxième article, des badges, qui sont toujours disponibles gratuitement. Vous allez sur www.déclencheur.com, vous suivez le lien carte ou badge, et vous pouvez commander vos cartes ou vos badges pour donner à vos amis, partager le plaisir que vous avez à écouter ce podcast. Et je passe aux commentaires. Toujours quelques réactions sur la mise en vente des vidéos avec des commentaires de Guillaume, Julien, Pierre-Yves, Alain, Michel, Mathieu, Sam et Rudy. Je vous remercie de ces commentaires. J'ai l'impression que dans l'ensemble, vous commencez à comprendre la logique de la démarche. Vous ne l'approuvez pas tout, je l'ai très bien compris, mais je crois que dans l'ensemble, vous acceptez qu'il faut parfois expérimenter et puis voir ce que ça va donner comme résultat. Et je note avec plaisir que de plus en plus d'entre vous me soutiennent dans la démarche. Des messages d'encouragement reçus de Alec F, Triton et RSA Godzilla. Merci à vous. Une petite discussion entre Stan, Maxime Grislin et Toan sur le choix d'un objectif pour les photos de spectacle. C'est Stan qui pose la question, il a un Nikon D40 et il souhaite un objectif très lumineux avec une longue focale pour faire des photos d'une scène à distance. Et il voulait mon avis sur le Nikkor AFDC 135mm F2D, qui est un objectif que je ne lui conseille absolument pas. Le D40 et le D40X chez Nikon ont une particularité, ils ne sont pas compatibles avec tous les objectifs. En tout cas, l'autofocus n'est pas compatible avec tous les objectifs. Il faut des objectifs dits AFS. En gros, pour contrôler le prix de ces boîtiers, Nikon a supprimé l'ancien système autofocus, n'a laissé que le système autofocus le plus récent, et donc ça veut dire que toute une série d'objectifs plus anciens ne sont pas compatibles avec ce boîtier. J'ai fait une petite recherche pour trouver un objectif approprié pour ce type de demande. Je pensais évidemment au 70-200 f2.8 ultra lumineux qu'on avait évoqué avec Nicolas dans l'épisode sur la photographie de spectacle, mais c'est vrai que c'est un objectif très coûteux. Et j'ai été surpris de trouver un 50-150 f2.8 dont j'avais jamais entendu parler chez Sigma. Il offre en finale le même angle de vision que le 70-200 sur les capteurs 24-36. Comme c'est un objectif numérique, il est considérablement plus petit et considérablement moins cher. L'objectif est récent, donc j'ai pas pu trouver de test pour évaluer sa qualité, mais je crois que c'est certainement une piste à suivre. Alex31 pose une réflexion qui rejoint un petit peu ce que je disais dans l'édito, c'est-à-dire que les limites qu'on va s'imposer peuvent parfois décupler notre créativité. Sur le choix focale variable focale fixe, il dit, je cite, « La focale fixe a le mérite de nous pousser encore dans l'affirmation et la prise de conscience de nos choix artistiques. » J'ai insisté dans l'épisode sur le fait qu'une focale donnée va nous amener à cadrer de façon différente parce qu'on va devoir se déplacer autour de son sujet. Il y a une animation dans la vidéo qui montre ça très bien. Mais c'est vrai que moi, je prends parfois plaisir à monter une focale fixe sur mon appareil et me dire « voilà, je vais réaliser cette série de photos avec cette focale ». Ça fixe une variable et ça oblige à être créatif ailleurs pour compenser. Et c'est vrai que c'est instructif. Greg, qui je présume est un auditeur belge, me dit « pourquoi dis-tu le 70e épisode ? Tu devrais dire fièrement le 70e épisode. 70e étant évidemment le belgicisme pour 70. » Il m'a bien fait rire ce commentaire. Il y a une raison très simple, hein. Vous êtes 70% de Français à écouter, et je sais qu'en France, 70 et 90, ça ne veut rien dire du tout. Pour la petite anecdote où j'ai eu très difficile, c'était avec le boîtier, le D70, que j'appelle évidemment D70 dans la vie quotidienne, et j'étais content de changer de boîtier, ne serait-ce que pour me simplifier les enregistrements. Yves nous conseille le logiciel Exposure Plot, il donne l'adresse de téléchargement dans le commentaire, pour analyser nos photos EXIF, qui est une des choses que je vous conseille de faire pour déterminer les focales que vous utilisez le plus couramment. NL m'invite à accélérer le débit de la parole, il trouve que j'ai un débit un petit peu lent. Merci NL, je vais essayer d'y faire attention. On revient sur le format photo HD avec Thomas Paris, qui indique qu'en juillet, en fait, Microsoft aurait déposé le format auprès d'un organisme de normalisation et il fournit le lien. Le problème restant, que le format photo HD est protégé par divers brevets. Ce qui est particulièrement à surveiller dans ce genre de sujet, c'est l'archivage. Le fait de disposer de formats ouverts, accessibles librement par tout logiciel, est un point clé. Autant pour pas mal de types de documents, c'est en final pas catastrophique d'être lié à un éditeur donné, autant pour des photos c'est extrêmement gênant, c'est le même débat d'ailleurs qu'avec le RAW, parce que nos photos ont une durée de vie énorme. Aujourd'hui, on profite toujours de photos qui ont été prises il y a 50, qui ont été prises il y a 100 ans, et elles gardent une valeur très forte. Et donc je crois qu'il est vraiment important, vu la nature des photos, d'adopter des formats qui vont être ouverts et libres de droit. Zoran réagit à ma remarque sur le facteur de conversion, j'avais annoncé qu'elle était polémique, en disant que pour lui, il est très important de savoir si un objectif est un grand angle, un télé, et cette appellation n'a plus le même sens qu'avant. Jusque-là, on est tout à fait d'accord Zoran, et je crois que c'est le thème que j'ai essayé de développer. Ce qui est important, c'est de savoir effectivement ce qui est un grand angle, ce qui est un télé, et pas tellement de savoir si ce grand angle était un grand angle en 24 mm ou pas. Ce qui est important, c'est de le savoir par rapport à l'appareil sur lequel on travaille. Et là, le plus simple, à mon avis, c'est pas de jouer avec un facteur de conversion qui, à mes yeux, embrouille les choses. Il est plus simple de repartir sur la définition originelle de l'objectif normal. Et il se mesure par rapport à la taille du capteur ou du film, et pas par rapport à la taille 24-36 en faisant une conversion. Maintenant, on est d'accord que ce sont des formules de calcul différentes pour arriver au même résultat. Et donc, si tu as plus fasciné avec le facteur de conversion, pars avec le facteur de conversion. Ce qui est important, c'est de savoir sur mon boîtier, le 50 mm, c'est un télé ou c'est un objectif normal. C'est pas la même chose. Une petite discussion entre Mickey, B. Mallory et Franck Doyen sur le test de la profondeur de champ. Donc je l'évoquais dans l'épisode, quand vous appuyez sur le bouton de test de la profondeur de champ, le diaphragme de votre objectif se ferme à la valeur qui était retenue pour l'exposition, ce qui vous permet d'évaluer la profondeur de champ. Mickey n'est pas certain d'avoir compris, il dit « est-ce que ça veut dire que quand c'est sombre dans le viseur, ce sera net sur la photo ?» C'est pas ça le critère. C'est vrai que l'image s'assombrit dans le viseur, mais la profondeur de champ remonte sur l'image et donc ça permet de voir net des objets qui n'étaient pas nets avant d'avoir appuyé sur le test de profondeur de champ. Pourquoi le viseur s'assombrit ? Ben parce que le diaphragme s'est refermé. Si vous avez par exemple un objectif qui ouvre à f2.8 et que vous avez choisi un diaphragme de f5.6, au moment où vous allez appuyer sur le test de la profondeur de champ, il y aura 4 fois moins de lumière qui va rentrer dans le boîtier. Mais la profondeur de champ sera celle de l'objectif à f5.6, donc vous pourrez l'évaluer. Franck Doyen nous rappelle que sur les appareils numériques, l'écran arrière combiné avec la fonction de zoom permet de vérifier la profondeur de champ avec beaucoup plus de finesse et sans avoir l'inconvénient du viseur qui s'assombrit. Sur l'épisode avec Alain Bachelier, Frédéric Crozat apporte quelques petites précisions sur l'évolution de Flickr. C'est vrai que depuis qu'on a enregistré ça, Flickr ne s'est pas arrêté. Depuis juin 2007, Flickr est maintenant disponible en français. Et puis le quota d'envoi est maintenant illimité, donc vous pouvez mettre autant de photos que vous voulez pour les comptes pro. Il me reste à vous remercier de votre écoute. Si l'épisode vous a plu, vous pouvez vous abonner sur www.déclencheur.com. L'abonnement est complètement gratuit. S'abonner à un podcast, ça signifie simplement que vous recevez automatiquement tous les épisodes. Plus d'infos sur le site. Et le prochain épisode sera une interview. À bientôt !